Nombre chapitre 10, nous lirons à partir du verset 29. Nombre chapitre 10, verset 29. C'est pas un livre qu'on a dit trop souvent ou qu'on est en train d'aller souvent. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de recensements. Mais il y a des portions qui sont très pratiques dans le livre des Nombres pour nous. Alors, Nombre chapitre 10. Juste avant Deutéronome, Nombre chapitre 10. Verset 29, Moïse dit à Hobab, fils de son beau-père Madianite Reuel, « Nous partons pour le pays que le Seigneur a promis de nous donner. Viens avec nous, nous te ferons participer aux bienfaits que le Seigneur veut accorder à Israël. » « Non, répondit Hobab, je préfère retourner dans mon pays et ma famille. » « Je t'en prie, reprit Moïse, ne nous abandonne pas. Tu connais les endroits du désert où nous pourrons installer notre camp. Tu seras notre guide. Si tu nous accompagnes, nous te ferons participer aux bienfaits que le Seigneur va nous accorder. » Les Israélites quittèrent la montagne du Seigneur pour une marche de 3 jours. Le coffre de l'Alliance du Seigneur les précédait pour leur trouver un endroit où ils pourraient s'installer commodément. De jour, la fumée du Seigneur planait au-dessus d'eux lorsqu'ils levaient le camp. Au moment du départ du coffre sacré, Moïse s'écriait, « Dresse-toi, Seigneur, afin que tes ennemis soient dispersés et que tes adversaires s'enfuient devant toi. » Et lorsque l'on déposait le coffre, Moïse s'écriait, « Seigneur, reviens prendre place au milieu des familles innombrables d'Israël. » Il y a 2 belles prières là que je pense qu'on devrait actualiser pour nous, chrétiens du 21e siècle. « Dresse-toi, Seigneur, afin que tes ennemis soient dispersés et que tes adversaires s'enfuient devant toi. » Ça, c'est une prière. Et la deuxième, « Seigneur, reviens prendre place. » Reviens prendre place au milieu des familles innombrables d'Israël. Et moi, je pourrais rajouter, Seigneur, reviens prendre place au milieu de ton Église aujourd'hui, afin que ton Église, qui souvent marche dans le compromis, puisse marcher dans les voies que tu as tracées pour elle. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, combien tu as su, dans ta grandeur, dans ta puissance, guider ton peuple. Que tu les as délivrés de l'esclavage dans lequel ils se tenaient, que tu les as accompagnés jour après jour pour pourvoir à leurs besoins et les conduire finalement dans ce pays que tu avais promis où coule le lait et le miel. Seigneur, ce matin, nous te demandons de parler à nos cœurs, Seigneur, et si nous sommes esclaves d'un péché quelconque, eh bien, nous savons que nous pouvons compter sur toi comme tu as fait pour les Israélites, esclaves des Égyptiens. Nous savons que tu es capable de délivrer quiconque, Seigneur, te confesse son péché et te le remet entre tes mains. Nous savons aussi, Seigneur, que si nous ne te suivons pas jour après jour dans ta parole, eh bien, comme tu l'as fait pour les Israélites, Seigneur, nous pouvons compter sur toi, ta présence, tu es toujours présent dans nos vies, et tu nous demandes simplement que nous te fassions un clin d'œil pour que tu puisses, Seigneur, marcher à nos côtés et nous amener là où tu veux nous amener, Seigneur, dans cette terre promise qui est le paradis. Seigneur, bénis cette prédication, bénis ce message, Seigneur, que tu puisses parler à travers ma bouche, que l'homme puisse s'effacer, que nous puissions entendre celui qui est le Dieu de la parole, cette parole qui est esprit-vérité. Et c'est au nom de Jésus que je te prie, je te demande ces choses. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Frères et sœurs, la Bible est un livre d'invitation. Tout au long des pages de ce grand livre, Dieu invite continuellement les gens à se joindre à lui et à là où il va et dans ce qu'il fait. Le simple fait de savoir que Dieu m'invite à me joindre à lui est tellement une bonne nouvelle qu'il est difficile d'exprimer à travers des mots toute la reconnaissance qui lui revient. Ce matin, si je vous demandais de vous lever à tour de rôle et d'exprimer à haute voix, finalement, le simple fait que Dieu s'est révélé dans vos vies, comment dans une petite phrase vous pourriez vous exprimer, ce serait difficile pour nous de trouver les mots. On pourrait simplement dire, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ouais. Merci de ne pas m'avoir traité comme je le méritais, Seigneur. Merci, Seigneur, merci parce que de toute éternité, j'étais dans tes pensées. Merci, Seigneur, parce que sur la croix, quand Jésus est mort, mon nom était dans ses pensées. Ouais. Une simple phrase. Il est difficile d'exprimer à travers des mots toute la reconnaissance que nous devons au Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Dans ce passage ici ce matin que nous avons lu, eh bien, Moïse parle à un homme qui s'appelle Hobab. Les commentateurs ne s'accordent pas tous quant à savoir qui est cet Hobab. Certains pensent que c'est le beau-père de Moïse, tandis que d'autres pensent que Hobab est un autre nom pour Jéthro, le beau-père de Moïse. Moi, je penche plutôt vers cette dernière interprétation en raison de ce qui est écrit dans Juges chapitre 4, verset 11, où Hobab est appelé le beau-père de Moïse. Nous savons que dans Exode 18, Jéthro avait visité le peuple d'Israël. Il avait été une grande bénédiction pour le peuple, surtout pour Moïse, qui était débordé par essayer de régler tous les problèmes du peuple. Et Jéthro, qui n'était pas un Israélite, mais qui était quelqu'un important là où il était, eh bien, a pu donner certains conseils à Moïse. Le texte biblique nous dit afin d'éviter qu'il s'épuise complètement. Et dans ce passage, Israël s'apprête à quitter le désert du Sinaï pour le pays de Canaan, que le Seigneur a promis de leur donner. Nous savons que pendant qu'ils campaient au pied de la montagne du mont Sinaï, eh bien, ils avaient reçu la loi, construit le tabernacle et appris à adorer le Seigneur Dieu. Mais au moment de partir, Moïse va prendre le temps d'inviter Hobab à les accompagner. Et je voudrais examiner avec vous ce matin cette invitation que Moïse a faite à Hobab, car nous y trouvons non seulement un enseignement important pour l'Église, mais nous y trouvons aussi un enseignement important pour ceux qui vivent à l'extérieur de l'Église et un enseignement pour chaque personne qui se trouve dans cette salle ce matin. Avant de regarder ce passage, nous, on va le regarder tout de suite. Considérons l'invitation faite par Moïse à Hobab à fraterniser, à participer à la communion fraternelle et à bénéficier des promesses que Dieu va accomplir dans la vie de son peuple. Il y a trois mots importants dans ce passage, je l'ai dit pendant le moment de louange. Nous les trouvons verset 29. Viens avec nous. Viens avec nous. Viens avec nous parce que nous sommes un peuple spécial. Moïse et Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Dans ce seul verset, Moïse prononce le mot « nous » à trois reprises. Il invite son beau-père à se joindre à un groupe spécial. En effet, les enfants d'Israël étaient spéciaux parce qu'ils étaient le peuple de Dieu et ils étaient le peuple que Dieu avait mis à part parmi tous les autres peuples. C'était un peuple saint, nous dit la parole, un peuple consacré à l'Éternel son Dieu. C'est eux que l'Éternel avait choisis pour qu'ils lui appartiennent parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Frères et sœurs, je suis en train de lire Deutéronome, hein, c'est pas dans ce passage-là, je viens de lire Deutéronome. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez qu'en tant qu'Église, eh bien, nous sommes précieux aux yeux de Dieu? Jusqu'à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Et vous êtes précieux comme la prunelle de ses yeux. Et que si quelqu'un vous touche, il touche à la prunelle de Dieu, à la prunelle des yeux de Dieu. Ce peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. C'est ce que le peuple exprime dans un cantique dans Exode chapitre 15, verset 13. C'est toi qui as délivré ton peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Rappelez-vous dans le livre de l'Exode, chaque famille avait dû sacrifier un anneau sans tache, prendre de son sang pour ensuite en mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison, afin d'éviter le jugement de Dieu qui s'apprêtait à faire tomber sur les Égyptiens. Et en tant que chrétiens du 21e siècle, eh bien, nous avons une autre figure. Le sang n'a pas coulé sur les linteaux. On n'a pas eu à badigeonner le sang sur les linteaux, mais le Fils de Dieu, Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, eh bien, a badigeonné, je dirais plus que ça, il a versé son sang sur la croix pour que nous puissions être délivrés du jugement à venir et faire en sorte que nous puissions être intégrés parmi le peuple de Dieu. Chers amis, l'Église qui est aussi le peuple de Dieu est aussi un peuple spécial pour Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Vous êtes quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Avant même la fondation du monde, Dieu vous avait choisi, m'a choisi pour être sien, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et si nous aimons Dieu ce matin, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous sommes spéciaux, c'est-à-dire précieux à ses yeux, parce que nous avons été purifiés et rachetés à un prix extraordinaire. Frères et sœurs, rappelez-vous à quel prix vous avez été délivrés de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous ont transmise, dit l'apôtre Pierre. Ce n'est pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'or ou l'argent. Non, vous avez été délivrés par le sacrifice précieux de Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. Frères et sœurs, contrairement aux kamikazes qui tuent des gens pour convertir les gens à leur doctrine, Jésus, lui, est mort pour que les gens puissent accepter son enseignement, puissent accepter son salut. Voilà tout le contraire. Hein? Tout le contraire, n'est-ce pas? Oui. Christ s'est sacrifié, a donné sa vie pour qu'on puisse se convertir à lui. Il n'a jamais tué du monde pour que les gens... il n'a jamais tué ceux qui refusaient de venir à lui. Il leur a enseigné l'Évangile. Il n'a pas mis de pression. Il n'a pas été agressif. Il a annoncé le merveilleux message de l'Évangile, le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Et ceux qui ne voulaient pas le recevoir, comme le jeune homme riche, eh bien, t'es sans excuse devant Dieu. Tu as entendu ce que tu devais entendre. Maintenant, tu seras confronté à l'éternité quand tu comparaîtras devant Dieu. Et je pense que c'est la même chose qu'on doit faire par rapport à la promulgation de l'Évangile. On est simplement là pour annoncer ce qui a changé notre vie, la personne qui a changé notre vie, dans quel domaine ça a changé notre vie, l'espérance que nous avons reçue par rapport à ce message que nous avons entendu. Nous le diffusons aux gens et les gens font ce qu'ils veulent avec. C'est ça, on en a parlé il y a 2 semaines, c'est ça le libre arbitre. C'est ça la grande responsabilité des êtres humains. Les êtres humains vont répondre de ce qu'ils ont entendu. Dieu nous a en effet arraché à la puissance de l'obscurité, nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Chers amis, si vous êtes sauvés, vous faites partie du peuple qui appartient à Dieu et vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître. Moïse dit à Obab, viens avec nous, nous allons, non seulement nous sommes un peuple spécial, mais nous allons aussi habiter dans un endroit spécial. Et frères et sœurs, regardez tout le parallèle qui est en train de se dessiner par rapport à l'Église et par rapport à l'ancien Israël. Vous êtes un peuple spécial et Dieu nous réserve un endroit spécial. Il était en haut. C'est le paradis. Et qui sera en bas, la nouvelle Jérusalem, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va recréer un jour. Frères et sœurs, vous êtes un peuple spécial et Dieu vous prépare un endroit spécial. Et Christ l'a déjà dit, hein? Je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer une place. Et quand ce sera fini, eh bien, je redescendrai, je viendrai vous chercher et je vous amènerai avec moi pour l'éternité. Frères et sœurs, on n'est pas n'importe qui, hein? Il faut apprendre à marcher avec les yeux de la foi et non pas avec ce qu'on voit parce qu'on va être découragé. Ouais. Rappelez-vous Élisée, son serviteur. Alors que le roi de Syrie envoie son armée pour le capturer, son serviteur, il panique. Il voit l'armée nombreuse syrienne qui est devant eux. Et Élisée ne panique pas. Son serviteur, il se pense tout seul. Il pense que c'est terminé. Parce qu'il voit avec ses yeux d'être humain. Mais Élisée, c'est un homme de foi. Élisée voit avec ses yeux de sa foi. Il dit, hey, regarde en haut, au-dessus des montagnes. Regarde l'armée d'anges qui est là, que Dieu a envoyée pour nous défendre. Frères et sœurs, pensez que ça a changé, ça, aujourd'hui. Les anges sont à votre service. Ils sont à mon service. Hébreux, chapitre 1. Les anges sont des serviteurs, sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour venir en aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Frères et sœurs, les anges ne sont pas disparus quand Christ est mort. Les anges sont à votre service, ils sont à notre service. Ils sont au service de ceux qui sont appelés à recevoir le salut, c'est extraordinaire. Maintenant, comment vivez-vous votre vie chrétienne avec les yeux de votre foi ou avec les yeux humains? Si vous fonctionnez avec les yeux humains, vous allez être découragé. Vous allez finir par abandonner. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon autour de nous que des mauvaises nouvelles. Mais avec les yeux de la foi, bien, rappelez-vous, il y a une armée. Là, Dieu envoie une armée pour vous protéger. Il y a des anges qui sont là, frères et sœurs. Il y a des anges qui sont dans une autre dimension. Ils voyagent dans une autre dimension, mais ils sont là, frères et sœurs. Et on peut compter sur Dieu. Dieu ne nous fera jamais défaut. Ouais. Et si on doit souffrir, le Seigneur est là pour nous aider à passer à travers. Pour nous soulager. On est grand Dieu, nous sommes non seulement un peuple spécial, mais Dieu réserve un endroit spécial pour nous. Regardez, mais ils invitent son beau-père à se joindre à eux dans leur voyage, à leur pays que Dieu a promis de leur donner. Un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'était un pays où on les attendait de grandes bénédictions et de nombreuses victoires. Et au moins 20 reprises, le pays de Canaan dans la Bible est appelé un pays où coule le lait et le miel. Ce devait être un endroit merveilleux. Nous pouvons être certains que Dieu avait choisi le meilleur pour son peuple. Moïse dit à son beau-père, viens avec nous. Viens avec nous. Frères et sœurs, nous nous dirigeons vers un endroit spécial. Ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel, mais quelque chose de meilleur encore, un pays où nous y trouverons la paix, la joie et l'absence du péché. Un pays où nous attend de grandes et riches bénédictions, où les problèmes et les soucis de ce monde ne peuvent plus nous suivre, parce qu'on est dans un autre monde. Lorsque nous mettrons les pieds dans ce pays, il est écrit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, parce qu'il n'y aura plus de mort, parce qu'il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes seront passées, les choses anciennes auront disparu. Rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, le livre qui appartient à l'agneau. J'aimerais vous poser une première question ce matin. Toi qui es dans cette salle ce matin, as-tu l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Parce que si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de l'agneau ce matin, Dieu va ouvrir un autre livre, et c'est celui du jugement, où ton nom y sera écrit. Et tu n'y échapperas pas. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie ce matin? Il n'est pas inscrit sur la base de ce que tu auras accompli, mais uniquement sur la base de ce que Christ aura accompli pour toi. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie ce matin? Moïse dit à Aobab, viens avec nous, car non seulement nous sommes un peuple spécial, non seulement Dieu nous réserve un peuple spécial, mais nous bénéficions un endroit spécial, mais nous bénéficions d'un grand privilège parce que nous sommes le peuple de Dieu. Aobab ne faisait pas partie de ce peuple. Il ne faisait pas partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Il n'y avait donc aucune part aux promesses que Dieu avait faites à Israël. Moïse va utiliser le privilège qu'il a en tant que membre du peuple de Dieu pour inviter Aobab à se joindre au peuple d'Israël et à partager leur bénédiction. Moïse, en tant que privilégié, pouvait dire à Aobab, « Viens avec nous, nous te ferons participer aux bénédictions que le Seigneur veut accorder à Israël. » Et frères et sœurs, c'est exactement le même langage en tant qu'enfant de Dieu, c'est le même privilège que nous avons avec les non-chrétiens. Viens avec nous. Viens avec nous. Viens goûter combien le Seigneur est bon. Viens avec nous. Viens recevoir les bénédictions que Dieu en réserve pour toi. Ouais. Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'incorporer dans son peuple. Le message, il est simple. Sans agressivité. Sans retenir les gens. Viens avec nous, nous te ferons participer aux bienfaits que le Seigneur en réserve pour nous. Autrement dit, viens avec nous et tu bénéficieras aussi de ce que Dieu en réserve pour ses enfants. En passant, c'est aussi notre privilège d'inviter tous ceux qui nous entourent à venir avec nous. Cette chose que nous appelons le salut est quelque chose qui doit être partagé avec les autres. Nous pouvons l'offrir aux autres sans pour autant que cela diminue la valeur de ce que nous avons. Je prends un exemple. Si j'ai 100 euros et que je donne 5 euros à 20 personnes, j'ai partagé ce que j'avais. Il ne me reste donc rien. Mais si je partage ma foi et que j'invite quelqu'un qui ne connaît pas Jésus à venir avec nous, je lui ai donné ce que j'ai, mais je n'ai rien perdu. En fait, j'ai augmenté la valeur de ce que j'avais parce que je viens de m'amasser des richesses dans le ciel. Où ni les vers, ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serrure ni dérober. Car là où sont nos richesses, là aussi est notre cœur, n'est-ce pas, frères et sœurs? Où est votre cœur ce matin? Le salut est la seule chose que je connaisse qui prend de la valeur quand vous l'offrez aux autres. Pendant que je parle de ce sujet, permettez-moi de dire que le fait d'inviter les gens à venir avec nous est non seulement un privilège, mais surtout une obligation. Nous avons reçu le commandement de partager ce que nous avons avec ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Jésus a dit, « Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. On chante ce cantique, Jésus, on a chanté ce cantique ce matin, Jésus, tu es là. Il y a un verset qui nous dit que Jésus, là où deux, trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Frères et sœurs, est-ce que ça se limite seulement à un cantique, ou si c'est une réalité pour nous quand nous chantons ces cantiques? Nous avons reçu l'ordre d'inviter les gens à venir avec nous pour qu'ils puissent participer aux bienfaits que le Seigneur veut vous accorder, qu'il veut m'accorder. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, « Je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Et Aobab répond à Moïse, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays, dans ma patrie. » Et ça, c'est bien aussi parce que ça arrive qu'on parle, on parle aux gens de venir avec nous. La première fois, ils disent non. Mais on va voir un petit peu plus loin qu'on va retrouver à un moment donné Jéthro parmi le peuple de Dieu. Ça n'a pas passé la première fois. Je ne sais pas combien de fois que ça a pris. Mais à un moment donné, quand on lit la parole, on s'aperçoit que Jéthro, finalement, il a accepté l'invitation. Et ça en est de même pour tous ceux à qui on parle. Viens avec nous. Il dit non. Il y en a un autre qui va passer, qui va dire, écoute, Dieu t'appelle à venir faire partie de son peuple. Et il y a quelque chose qui se déclique. Et c'est le moment propice. C'est le moment du salut ce jour-là. Et la personne, eh bien, elle donne sa réponse à Jésus. Frères et sœurs, étant donné qu'Obab ne fait pas partie du peuple d'Israël, il n'avait aucune part à la relation que le peuple avait avec Dieu suite à l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Autrement dit, c'était un homme perdu. Il n'avait aucune part aux bénédictions et aux promesses du Seigneur. Il n'avait aucun espoir de salut pour lui, à moins d'accepter l'invitation de Moïse et de faire partie de la nation d'Israël. Moïse l'invite donc à se joindre à la famille. Et nous avons besoin d'entendre le même message aujourd'hui. Il n'y a pas de salut en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Je veux être clair ici, je ne sous-entends pas que vous pouvez être sauvé en vous joignant à cette église ou à n'importe quelle église, ni être sauvé en observant n'importe quel rituel où on demande aux gens de faire ceci ou de faire cela. Mais surtout, vous ne pouvez pas être sauvé si vous êtes baptisé, en vous faisant baptiser, pardon, ou en devenant membre d'une église. Le baptême ne sauve pas. On ne se fait pas baptiser pour être sauvé. C'est parce qu'on est sauvé qu'on se fait baptiser. Voilà toute la différence. Ce que je dis, c'est que le salut ne se trouve pas dans une relation... c'est que le salut se trouve dans une relation personnelle avec Jésus. Quand vous croyez en Jésus, vous devenez membre de son corps, c'est-à-dire l'Église. Il n'y a aucun espoir d'entrer au ciel ou de recevoir le salut sans vivre une relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je tiens à vous le dire, je fais les églises, je promets, je vais dans certaines églises. Frères et sœurs, ce que j'entends, la religion évangélique, ça existe. Ça existe. Malheureusement, on a nos rites. On a nos cérémoniaux. La religion évangélique, ça existe. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui m'amène ici le dimanche matin? Qu'est-ce qui m'amène à venir ici dimanche matin? Est-ce que j'aimerais mieux aller chez l'abbat pendant 2 heures? Ou si je viens ici simplement à cause du regard des gens? Pourquoi je viens dans cette salle le dimanche matin? La religion évangélique, ça existe, frères et sœurs, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Quand j'entends des chrétiens, comment ils me racontent leur espérance, mais c'est fondé sur du sable. Jésus est complètement absent dans leur vie, dans leur témoignage. Regardez ça, la religion évangélique, ça existe. Et elle est fort populaire à travers le monde. Parce que dans certaines églises, il y a beaucoup d'excitation. On a l'ambiance de la discothèque. Et ça marche. Ce n'est pas une question d'ambiance, hein, uniquement d'ambiance. C'est une question, quel est le message qui est véhiculé dans cette église? Est-ce que Jésus est au centre du message? Quand Jésus dit, vous devez tous naître de nouveau, il ne fait pas d'exception, ça veut dire ce que ça veut dire. Il doit y avoir un moment bien précis dans notre vie où nous décidons de nous tourner vers Jésus par la foi, de renoncer à notre ancienne vie, et de lui faire confiance en tant que sauveur. Recevoir, croire en Seigneur Jésus-Christ, c'est l'accepter qu'il devienne mon sauveur, mais c'est aussi, pratiquement dans la vie courante, renoncer à mon ancienne vie. C'est un signe de la nouvelle naissance, c'est le signe extérieur de la nouvelle naissance. Renoncer à mon ancienne vie. Jésus dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il a dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, si quelqu'un veut devenir mon enfant, si quelqu'un veut devenir un héritier du royaume, il doit renoncer à son ancienne vie. Il doit accepter de souffrir comme moi j'ai souffert, d'être persécuté à cause de sa foi, et me suivre, obéir à mon enseignement. Ça, c'est pas, je vous parle pas de religion, je vous parle d'une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Jacques Hudon qui est votre modèle, c'est lui qui est votre modèle. Parce que moi, je vais vous décevoir si vous gardez mes yeux sur moi, vos yeux sur moi. Mais lui, il n'a jamais déçu personne, il ne vous décevra jamais. Mais il doit être au centre de notre vie. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile dans l'époque dans laquelle on vit. C'est vrai qu'on peut chuter, mais on a toujours un passage qui nous dit, eh bien, si on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ouais. On ne demande pas pardon au Seigneur quand on sait que demain on va recommencer. Hein. C'est pas ça une repentance. Hein. C'est pas ça une repentance. Ouais. À une autre occasion, parlons aux frères. Pardon. Paul dira au geôlier qui lui demandait ce qu'il devait faire pour être sauvé, Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il n'a pas dit, crois au Sauveur Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Lever la main pour accepter Jésus comme Sauveur, n'importe qui peut le faire. Mais comme Seigneur, c'est une autre chose parce que je dois renoncer à mon ancienne vie. Et ça, la nouvelle naissance, elle passe par là. Ouais. Ouais. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ouais. Pourquoi quand ce verset-là, il y a des gens qui prennent ce verset-là et qui ne comprennent pas parce qu'ils sont sauvés que leur famille ne les suive pas? Écoutez, il y a quand même une promesse qui se cache derrière ça. Hein? Ta famille va être sauvée si toi, là, tu reflètes la personne de Christ dans ton foyer. Hein? Hey, c'est pas une étiquette là, pour rentrer au ciel comme ça. Hein? Pas parce que moi je suis sauvé que mes quatre enfants, j'ai une garantie, mes quatre enfants sont sauvés. Hein? Si tu es un modèle de la personne de Jésus-Christ dans ton foyer, cette promesse-là elle s'applique à ta famille. J'entends des gens qui prêchent là-dessus, mais accepte. C'est pas grave, le Seigneur va les amener les autres. Comme de force, hein? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À une autre occasion, parlant aux frères, Paul leur a dit concernant l'Évangile, cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé, car l'homme croit dans son cœur et Dieu le rend juste devant lui. L'homme affirme avec sa bouche et Dieu le sauve. Frères et sœurs, la foi, là, la foi, elle est suivie par un témoignage. Hein? Moi, j'ai dit tellement de bêtises, j'étais pas gêné de dire des bêtises quand j'étais dans le monde, d'insulter des gens quand j'étais dans le monde. Eh bien, si j'avais pas été sauvé, si je n'étais pas né de nouveau, j'aurais été incapable de témoigner, de rendre témoignage à la personne de Jésus-Christ. C'est pas moi qui s'ouvre la bouche pour témoigner, c'est le Seigneur qui m'ouvre la bouche pour témoigner. Ouais, parce qu'il habite en moi. Parce que son Évangile repose dans mon cœur. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. C'est par la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. C'est pas au moyen de la grâce, c'est au moyen de la foi, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Donc, on ne fait rien pour gagner notre salut, c'est Dieu. Le salut vient de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. En tant que membre de la famille, vous avez droit, accès à tous les droits et à tous les privilèges. Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Et Jean avait raison parce que si Dieu nous révélait tout ce qui nous attend, on n'aurait plus besoin de la foi. Hein? Ouais. On saurait tout. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tout homme qui a cette espérance, écoutez bien, se rend pur, comme Jésus-Christ est pur. Voulant rassurer ses disciples, Jésus leur a dit, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Je ne le vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Je ne suis pas un menteur, si ce que je vous dis, c'est la vérité. » Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Frères et sœurs, il y a une place qui vous attend dans le ciel, il y a une place qui m'attend dans le ciel, et Jésus est en train de la préparer, et ça doit être quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique. C'est pourquoi il peut sauver maintenant et toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Il y a des privilèges qui attendent ceux qui font partie de la famille de Dieu. Voilà pourquoi Moïse dit à Hobab, viens avec nous, viens avec nous. Joins-toi à nous, nous te ferons du bien. Verset 29, c'est ce qu'il dit au verset 29. Si tu viens avec nous, nous te traiterons bien. Dieu nous bénit, nous partageons ses bénédictions avec vous. Nous ne te ferons pas de mal et nous ferons de notre mieux pour être une bénédiction pour toi. En fait, Moïse est en train de dire deux choses ici à Hobab. Tu as besoin de nous et nous avons besoin de toi. Et on regardera ça dans la deuxième partie du message. Mais ici, tu as besoin de nous. Si Hobab veut être sauvé, profiter des bénédictions du Seigneur, alors il va devoir aller avec Israël. D'un autre côté, ils ont besoin de lui, parce que ce désert était le pays d'origine de Hobab. Il savait où se trouvaient les meilleurs sites de camping, il savait où se trouvaient les meilleurs sentiers, et il connaissait tous les points d'eau. Alors Moïse va lui dire, tu connais les endroits du désert où nous pourrons installer notre camp, verset 31. Tu seras notre guide. Autrement dit, nous serons une bénédiction pour toi, et tu seras une bénédiction aussi pour nous. Viens avec nous. Frères et sœurs, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui rentrent dans l'Église et qui acceptent le Seigneur, ils vont avoir besoin de vous. Mais on va aussi avoir besoin d'eux parce que Dieu va leur donner un don spirituel qu'ils vont devoir mettre au profit de l'Église. On a tous besoin des uns des autres, frères et sœurs. Il n'y a personne qui est trop dans l'Église de Jésus-Christ. Pensez cela, là, on a un gros, gros problème. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas indispensables. Mais Dieu veut nous utiliser, veut se glorifier à travers les dons spirituels qu'il nous a donnés. Lorsque nous invitons les gens à venir avec nous, nous faisons plus que leur offrir une passe gratuite pour entrer au ciel. Pardon. Et leur dire qu'ils recevront de grandes bénédictions lorsqu'ils quitteront cette terre. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un se joint à l'Église, il devrait entendre les mêmes choses que Ahab a entendues. Il devrait nous entendre parler de l'espérance qui est la nôtre et nous voir vivre comme des citoyens célestes parce que nous croyons dans cette espérance vivante qui est la résurrection des morts. Tu as besoin de nous, dit Moïse, et nous avons besoin de toi, Ahab. Pourquoi les gens ont-ils besoin de nous? Parce que l'Église est le seul endroit capable d'offrir aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs dans le monde. Et c'est une erreur qu'une Église offre aux gens la même chose qu'il y a dans le monde. Je répète, pourquoi les gens ont-ils besoin de nous? Parce que l'Église est le seul endroit capable d'offrir aux gens des choses qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs dans ce monde. Par exemple, voici ce qu'ils devraient trouver dans l'Église. Des gens qui se soucient vraiment d'eux. Des gens qui se réjouissent avec ceux qui sont joyeux et qui pleurent avec ceux qui pleurent. Des gens qui ne vivent pas pour ce qui leur plaît, mais qui cherchent plutôt à plaire à leur prochain pour son bien et pour le faire progresser dans sa foi. Voir ceux qui sont forts dans la foi aider les faibles à porter leur faiblesse. Des gens qui ne cherchent pas leur propre intérêt, mais qui pensent à celui des autres. Voici aussi ce qu'ils devraient trouver dans l'Église. Des gens qui vont les aider à porter leur fardeau. Parce que porter les fardeaux les uns des autres, c'est obéir à la loi de Christ, nous dit Galates. Si nous avons les moyens de répondre à un besoin spirituel ou physique dans la vie de quelqu'un, alors nous devons le faire de bonne foi. Étant donné que nous savons ce qu'est l'amour, puisque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un qui est riche voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il y a de l'amour pour Dieu dans son cœur? Il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. Ce doit être un véritable amour qui se manifeste par des actes. Vous savez que le diable, il lève la main, il croit en Dieu, hein? Mais il n'aidera jamais quelqu'un à être sauvé, hein? Il n'aidera jamais quelqu'un qui est mal pris à le sortir du trou, hein? Il va l'enfoncer davantage. Et quelqu'un qui n'est pas sauvé, il va aussi envoyer une puissance d'égarement encore, hein? Ouais. Mais la différence avec nous, il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. Ce doit être un véritable amour qui se manifeste par des actes. Mes frères, dit Jacques, à quoi cela sert-il que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par des actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur ait besoin de vêtements et n'ait pas assez à manger. À quoi cela vous sert-il de dire « au revoir, porte-toi bien, chauffe-toi, nourris-toi suffisamment » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. À elle seule, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est morte. Voici encore ce qui devrait être trouvé dans l'Église, des gens qui prient les uns pour les autres et qui portent leur fardeau devant le trône de la grâce de Dieu. Voici ce qu'on devrait encore trouver dans l'Église, c'est-à-dire qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Et quand on dit des choses qu'on doit trouver dans l'Église, c'est des choses qu'on ne trouve pas à l'extérieur. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain, et en aimant, nous obéissons parfaitement à la loi. Si nous agissons différemment selon les personnes, nous commettons un péché, nous dit Jacques. Les gens devraient trouver beaucoup plus dans l'Église. Ils devraient trouver la communion fraternelle, se sentir accepté, ressentir un esprit de famille. Nous devrions être capables de dire à chaque personne qui s'unit à cette Église, « Tu as ta place et nous te ferons participer aux bénédictions que le Seigneur veut accorder à cette Église. » En terminant, quand Ahab a attendu l'invitation de Moïse, la première fois, il a répondu non. Mais lorsque nous lisons le livre des juges, nous constatons qu'il a fini par changer d'avis. Il a quitté la ville de Jéricho avec les hommes de Juda pour s'installer dans la partie méridionale du territoire de Juda. Nous savons donc qu'Ahab a finalement accepté l'invitation de Moïse de se joindre au peuple de Dieu et qu'il a été béni avec Israël comme Moïse lui avait promis. À cette époque, Dieu a invité Ahab à se joindre à son peuple à travers Moïse en lui disant « Viens avec nous ». Aujourd'hui, à travers ce message, il vous lance la même invitation. « Viens avec nous. Viens avec nous au paradis si tu n'es pas sauvé ce matin. Viens à Jésus et sois sauvé. » Viens avec nous alors que nous servons le Seigneur. Il te bénira et il nous bénira par ta présence. Viens avec nous alors que nous avançons toujours dans ce que le Seigneur réserve pour cette Église. Il a un plan pour vous. Vous pouvez soit y aller volontairement et être béni, ou vous pouvez dire non et passer à côté de toutes les bénédictions. qu'il en réserve pour vous. Est-ce que Dieu vous a parlé ce matin? Est-ce qu'il vous a parlé au plus profond de vous-même? Si c'est le cas, alors, si ce n'est pas encore fait, viens à Jésus ce matin. Est-ce qu'il vous a parlé d'un problème auquel vous faites face ou d'un besoin que vous avez et que vous pouvez lui apporter? N'hésitez pas, venez à Jésus ce matin. Vous a-t-il parlé de la nécessité d'aller vers les autres et de leur dire, viens avec nous, viens à Jésus? N'hésitez pas, faites-le ce matin. Quel que soit le besoin, ne dites pas non à Dieu. Dites-lui oui et venez chercher l'aide dont vous avez besoin auprès de lui. Vous verrez qu'il accomplira dans votre vie ce qu'il a promis de vous donner, le pardon de vos péchés, une place dans le paradis et la vie éternelle. Amen. Amen. Invitez les musiciens à venir en avant.